Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique. Merci d'être là encore une fois cette semaine pour une autre capsule express. Présentée par moi-même cette fois-ci, je vous présente un peu de mes commentaires sur la saison 3 de la série The Witcher qui est disponible sur Netflix depuis le 29 juin. Mais avant de commencer, vous connaissez la rengaine. Vous êtes sur une plateforme numérique présentement, Spotify, Apple Pod, Google Pod, Balado Québec, peu importe laquelle sur laquelle vous nous écoutez présentement, il y a un petit bouton qui s'intitule Télécharger ou sinon un petit bouton qui s'intitule Abonner ou sinon vous avez un rating d'étoiles quelconque. Cliquez sur un de ces trois boutons-là, vous nous aidez énormément, vous ne savez même pas à quel point vous nous aidez. Plus on a d'abonnés, plus on a de téléchargements et plus on apparaît fréquemment dans les barres de recherche lorsque le monde cherche quoi écouter comme podcast. Donc un grand merci de le faire. Nous avons également une page Facebook qui s'intitule La critique de Yugi, rien de plus simple. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez La critique de Yugi, vous trouvez notre page, vous vous abonnez et vous partagez la bonne nouvelle. Ça nous aide également beaucoup, beaucoup à aller chercher encore plus d'auditoires. Donc c'est super apprécié si vous le faites. Merci de l'avoir fait si c'est déjà fait et merci de le faire si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est dit, on commence tout de suite cette capsule express sur la saison 3 de la série The Witcher qui est disponible sur Netflix. Une première partie de la saison 3, donc la saison 3 est en deux parties. Première partie disponible depuis le 29 juin, la deuxième partie sera mise en ligne, je crois, aux alentours du 27-29 juillet. Je n'ai pas la date précise, mais c'est à la fin du mois de juillet. Donc, 8 premiers épisodes pour la saison 3. Saison 3 qui fait suite, bien évidemment, aux aventures de Geralt, Yennefer et Ciri. C'est Ciri qui est basée sur les livres de Andrzej Sapkowski. Et dont les jeux vidéo ont été basés également sur les livres. Donc c'est super important de comprendre ce principe-là. Les jeux ne sont pas les livres. Les jeux ont été basés sur ce qui se passe dans les livres. Donc il ne faut vraiment pas confondre les deux. D'ordre général, ce qui se passe dans les jeux est complètement différent de ce qui se passe dans les livres. Donc ça, il faut le comprendre en partant. La série télévisée est une adaptation des livres. Je pense qu'on le sait, peu importe le type de livre qui est adapté au petit ou au grand écran, c'est pratiquement impossible de faire une copie conforme du livre ou des livres. Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est quand tu lis un livre, tu es déjà captivé par l'histoire, donc tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire, tu vas dévorer le livre. Même si parfois tu peux passer 5, 10, 15, 20 pages à lire une certaine inaction à l'histoire, c'est plus du blabla, c'est plus des conversations. Dans une série télé ou dans un film, tu peux pas te permettre de passer 5, 10, 15 minutes à avoir que du blabla, à avoir de l'inaction entre guillemets, parce que tu vas simplement perdre ton auditoire et tu ne veux pas le perdre, tu veux le garder captivé, tu veux le garder à l'attention. Tu veux qu'ils soient, tu veux qu'ils veulent continuer de suivre l'action, de suivre les aventures d'épisode en épisode. Donc, créativement parlant, c'est important de modifier certaines choses, quitte à couper des scènes, des moments importants des livres, parce que est-ce qu'ils amènent réellement quelque chose d'hyper important à l'histoire ou est-ce que tu es capable de présenter l'histoire sans ces scènes-là? Pour des choix également créatif, une scène va être modifiée simplement parce que visuellement elle va mieux ressortir ainsi. Au niveau narratif, ça va mieux sortir également si on modifie certaines affaires. Donc c'est pour ça que très souvent, une adaptation télévisuelle ou cinématographique d'un film va être différente du film et il faut être capable de l'accepter. Je lisais les critiques plutôt aujourd'hui par rapport à la série en général. Les critiques sont très 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 bonnes, mais les critiques de l'audience sont pas si bonnes que ça. C'est borderline du bashing. Et je lisais qu'est-ce que les gens disent, et c'est exactement ça que l'audience dit. La majorité des mauvaises critiques, c'est des fans qui ne sont pas contents que ça ne soit pas comme dans les livres. Il y a beaucoup de fans qui s'attendaient à voir à l'écran exactement ce qu'ils ont lu dans les livres, et là, ça les met en beau maudit de ne pas voir ça. Et ils bâchent le film, ils donnent de mauvaises notes à cause de ça. Donc, au niveau des critiques de l'audience, peu importe sur quel site que vous êtes, faut vraiment être très, très, très prudent avec ces notes-là. On a l'habitude de vous les donner ici à la critique de Yugi parce que c'est ce qu'on retrouve sur les webs, et c'est important de le mentionner. Mais il faut tout le temps porter un petit bémol parce qu'il y a énormément de bashing sur les réseaux, sur les sites internet. Les fans qui ne sont pas contents de ce qu'ils voient vont donner de très 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 mauvaises notes simplement pour être méchants. C'est pas des notes subjectives, c'est pas des notes... c'est pas des notes objectives. C'est souvent des notes basées sur l'émotion de la personne qui les écrit, contrairement à ce que ça devrait réellement être. Donc c'est pour ça que les notes au niveau de l'audience sont plus ou moins bonnes pour The Witcher. Donc si vous êtes quelqu'un qui a lu les livres, qui a joué aux jeux vidéo et que vous attendez à voir exactement ça au petit écran, vous allez être déçu, je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont très 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 similaires aux livres, très 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 similaires aux jeux vidéo même si les deux ne sont pas nécessairement liés ensemble. Mais il y a quand même beaucoup de variances, il y a beaucoup de choix créatifs, et c'est correct, je suis un très grand fan des livres, je suis un très grand fan du jeu vidéo, et moi ça m'a pas dérangé, ces changements-là m'ont aucunement dérangé, même que ça faisait du bien de voir une version peut-être un peu différente de ce qu'on est habitué de voir, ça l'apporte un petit plus à l'histoire, et ça me donne encore plus le goût de voir où est-ce que les créateurs, où est-ce que les scénaristes s'en vont avec ces personnages-là. Justement, au niveau des personnages, c'est ceux qui ont écouté la saison 1 et la saison 2, vous ne serez pas surpris du tout de revoir les mêmes acteurs reprendre le personnage. Mais sinon, si vous commencez à écouter la série, si vous commencez la saison 1, commencez la saison 1 s'il vous plaît, commencez pas avec la saison 3. Donc si vous n'avez pas encore écouté The Witcher, commencez la saison 1 parce que vous allez suivre la saison 3, vous allez être complètement mêlé parce qu'on se le cachera pas. C'est pas toujours facile à suivre comme histoire, surtout la saison 1 où on passe de le très 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 passé, suivi du présent, et on entremêle toutes ces histoires-là pour en arriver jusqu'au présent. C'est très mélangeant, c'est super bien fait, c'est super bien construit, et moi j'ai adoré, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile à suivre pour ceux qui sont habitués à ce genre de série-là. Saison 2, un petit peu plus politique. Et c'est normal parce que les livres sont très, très, très politiques. Si vous trouvez que la série The Witcher est trop politique, il y a trop d'intrigues par-dessus intrigues, mais c'est pire dans les livres. C'est honnêtement beaucoup pire dans les livres. Donc ça a été vraiment réduit au niveau de la série. Donc soyez content qu'il l'ait fait parce que sinon je pense que vous alliez être encore plus perdu. Saison 3, un petit peu mieux construite, un petit peu mieux dirigé vers la relation entre Geralt, Ciri et Yennefer. On sent vraiment beaucoup plus le côté familial qui s'installe entre les trois personnages, avec Jaskier qui arrive, qui est le bard, qui est revenu dans le groupe et qui devient tranquillement, et on le voit dans un épisode en particulier, qui devient beaucoup l'oncle de Ciri, le funny uncle, de la famille, il prend beaucoup plus la place de ce rôle-là, et c'est le fun à voir. Honnêtement, la relation entre Ciri et Jaskier est vraiment très très drôle à voir, beaucoup plus que celle entre Geralt et Jaskier. Mais c'est ça, la saison 3 est beaucoup mieux construite là-dessus, il y a encore beaucoup de politique, mais c'est un petit peu mieux dirigé, on voit beaucoup mieux vers où ça s'en va. Si vous n'étiez pas sûr comment ça s'en allait à la saison 1 et à la saison 2, on voit vraiment plus une ligne directrice au niveau de la saison 3. On délimite beaucoup plus les méchants des bons, même s'il y a encore une certaine zone grise sur certains personnages. Beaucoup mieux construit. Donc je m'en allais vers les personnages, justement. Henry Cavill qui reprend son rôle de Geralt. Dernière saison pour Henry Cavill. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un autre épisode. Conflit entre Henry Cavill et les scénaristes. Justement du côté créatif de la série, les changements apportés par rapport aux livres. Henry Cavill est un grand amateur des livres de The Witcher et il n'est pas content de certains choix créatifs. ainsi que d'autres points. Il n'y a pas juste ça, mais ça a fait un petit peu de choc entre les deux. Donc, est-ce qu'Henry Cavill s'est fait gentiment montrer la porte, ou ça a été une décision commune, ou c'est lui qui a décidé de tout simplement quitter? L'histoire le dit pas tant, mais bref, dernière saison pour Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia. Saison 4, c'est Liam Hemsworth qui va reprendre le flambeau du personnage. Liam Hemsworth, qui est le frère de Chris Hemsworth, celui qui joue Thor. Donc, son jeune frère va jouer Geralt à partir de la saison 4. Donc, si vous adorez Henry Cavill, profitez-en. Dernière saison pour l'acteur. Freya Allen reprend son rôle de Ciri, et je trouve qu'elle joue... Elle fait un travail exceptionnel du personnage. Très crédible, très commun avec la série qu'on voit dans les livres et dans les jeux vidéo. On reconnaît très... Les amateurs du livre et des jeux reconnaissent le personnage dans le jeu d'acteur de Freya Allen. Donc moi, j'aime beaucoup son rôle, j'aime beaucoup le personnage de Ciri, et elle le joue très très bien. Premier gros rôle pour Freya Allen. Quelques petits rôles ici et là, surtout dans des petits films, des shorts qu'on appelle, donc Bluebird, Captain Fierce, Christmas Tree. Sinon, premier rôle récurrent dans la série de Third Day. Et non, même pas, c'est même pas son premier rôle qui est récurrent, c'est son deuxième rôle récurrent, parce que son premier rôle récurrent, c'est dans la saison 1 de The Witcher. Sinon, on a Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer. Qui, elle aussi, quelques petits rôles ici et là. Elle a joué dans la série Wanderlust, dans la série The EBC Murders, quelques épisodes. Elle a fait la voix de Robin Loxley dans la série animée Sherwood. Récemment dans la série de Cypher, mais sinon son premier grand rôle principal, c'est le rôle de Yennefer dans The Witcher. Jaskier, justement, joué par Joey Beatty, qui lui a un petit peu plus de bagage dans son rôle d'acteur, mais encore là, c'est quelques petits rôles, beaucoup de voice-over. Il a fait la voix d'un personnage dans le jeu vidéo Dragon Quest Heroes 2. Il a joué dans la série In the Dark, deux petits épisodes. Sinon, il a joué 5 épisodes dans la série Nightfall. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre récemment? C'est pas mal tout ce qu'il a fait de gros. Son premier gros rôle officiel à lui aussi, c'est dans la série The Witcher. Donc, trois acteurs qui ont fait leur marque pour la première fois dans la série The Witcher. Donc, je pense que la série a amené beaucoup, beaucoup de choses et aurait été très gagnant pour ces acteurs-là. On a plein de personnages, je ne vous nommerai pas nécessairement tous les acteurs et tout ce qu'ils ont fait, mais pour ceux qui ont suivi les livres, pour ceux qui ont suivi les jeux vidéo, beaucoup de personnages qui reviennent, donc Kair, qui est joué par Emon Farron, qui joue le rôle du poursuivant de Ciri dans la majorité des premiers livres, revient dans la série. On a Tisseya, qui est la sorcière chef, si on veut, du Brotherhood au niveau des sorcières. Fringilla Viggo qui revient également, joué par Mimi D. Winnie. Beau nom. Ensuite, nous avons Trish, qui est joué par Anna Schaefer, qui revient également. Je ne suis pas un amateur du personnage de Trish dans la série télé. J'aime beaucoup le personnage dans les livres et dans les jeux vidéo, mais je trouve que l'actrice Anna Schaefer... Je sais pas si c'est elle qui le joue mal ou si c'est le personnage qui est mal écrit pour la série. J'ai un petit accrochage pour Triss. J'aime moins le personnage que je l'aimais avant. Sinon, on a Istred, qui était le premier amant de Yennefer, qui revient. Le méchant sorcier Stregobor, qui revient également. Francesca Findebear, qui est une sorcière, qui est la leader des elfes, revient. Vilgefort, ceux qui ont lu les livres... vous savez très bien qui est Vilgefortz et ce qu'il va faire. Pour ceux qui ne suivent que la série, pour l'instant, c'est un membre sorcier du Brotherhood. Vilgefortz revient. On a Dijkstra, le fameux espion de Redania qui fait son entrée également, qu'on a vu un petit peu dans la saison 2, mais très brièvement, mais qu'on voit vraiment beaucoup plus dans la saison 3, qui est joué par Graham McTavish. On a la plantureuse Sabrina, qui est la sorcière qui est blonde, qui aime beaucoup, beaucoup montrer sa peau. Empereur Émir, où on voit un petit peu plus fréquemment dans la saison 3, qui a fait son entrée officielle à la fin de la saison 2. Et ça, c'est une des critiques majeures des fans, parce que l'Empereur Émir, officiellement dans les livres, on ne le voit qu'à la toute fin, genre du 7e livre. Donc, ça a été prématuré, si on veut, entre guillemets, dans la série. Mais moi, je comprends pourquoi. C'est vraiment encore au côté créatif, question de mieux construire l'histoire. Question de moins mettre de points d'interrogation un peu partout. Là, c'est vraiment plus pour baser la ligne directrice, et je trouve ça correct, j'ai aucun problème avec ça. Sinon, on a le roi Vizimir également qui revient. On a Philippa Elhard, qui est une grande sorcière dans les livres et dans les jeux vidéo, qui est l'amante de Dijkstra, qui on voit vraiment beaucoup plus fréquemment dans cette saison-ci. On l'a vu très peu, très brièvement dans la saison 2. Mais vraiment un rôle beaucoup plus important dans la saison 3. Sinon, on fait également connaissance avec quelques nouveaux personnages, dont le prince Radovid. Ceux qui ont lu les livres, encore une fois, et joué aux jeux vidéo, vous savez très bien ce que va devenir prince Radovid. Donc, c'est très le fun de voir le personnage dans ses débuts. On a le sorcier Rhiens, qui est, entre guillemets, le gros méchant loup de la série, qui revient également. On fait connaissance avec Margarita des Antilles, qui est une sorcière qui est reconnue dans les livres et dans les jeux vidéo pour être une des plus belles sorcières du monde. Je suis particulièrement déçu du choix de l'actrice qui joue le personnage. Pas que c'est pas une belle femme, mais ça ne correspond pas aux critères qu'on a vus dans les livres et dans les jeux. Mais bon, c'est pas grave, c'est un choix créatif. C'est probablement un choix social également, et je respecte ça. On fait connaissance également avec son nom, Kera Metz, qui est une autre sorcière également, qu'on a vu dans les livres, qu'on a vu également beaucoup dans le troisième volet des jeux vidéo. Et c'est pas mal ça, c'est pas mal les personnages principaux que l'on retrouve dans la saison 3. Au niveau visuel, au niveau musical, on reste dans la même ambiance, on reste dans la même image que dans les deux premières saisons, donc rien ne changeait à ce niveau-là. C'est comme si on avait continué d'écouter la série du début à la fin sans s'être arrêté. Mais sinon, c'est ça. Donc une saison 3 beaucoup mieux construite, à mon avis, que la saison 1 et la saison 2. Plus facile à suivre, du moins, où on voit vraiment plus la relation interpersonnelle entre les personnages, ce que j'aime quand même vraiment beaucoup. La petite relation familiale entre Yennefer, Geralt, Ciri et Jaskier, c'est vraiment très plaisant à voir à l'écran. Au niveau des critiques, justement, sur IMDb, 8.1 sur 10, ce qui est très très bon pour IMDb. Honnêtement, un 8.1 sur 10, c'est une très bonne note. Sinon, ben là, c'est là qu'on tombe sur Rotten Tomatoes. Les critiques donnent 83%, donc encore là, une très bonne note au niveau des critiques, mais l'audience donne 60%. Mais, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, la majorité des notes de l'audience de 60%, c'est du bashing du monde qui ne comprennent pas pourquoi la série n'est pas comme dans les livres, qui ne comprennent pas les choix créatifs. C'est leur choix, ils ont le droit d'être fâchés, mais je pense que leur note n'a pas été basée sur un point objectif, mais beaucoup plus sur un point émotionnel. La note de Yugi pour la saison 3 de The Witcher, c'est un 8.5. Je pense avoir donné pas mal la même note au niveau de la saison 1 et de la saison 2. 8.5, je trouve ça très très bon. Si vous avez écouté la saison 1, saison 2, écoutez la saison 3, vous ne le regretterez pas. C'est une très très bonne saison. De plus, c'est la plus grosse saison des 3. Elle est divisée en 2. Donc la majeure saison 1, saison 2, c'était 12 épisodes. 8 épisodes pour la partie 1. J'ai pas vu combien d'épisodes pour la partie 2, mais je serais surpris de voir seulement 4 épisodes, c'est possible. Mais je serais quand même surpris, je m'attends peut-être à 6 ou peut-être encore 8 épisodes pour la deuxième partie. Ce qui fait d'elle, je pense, la plus grosse saison des 3 saisons. Donc The Witcher sur Netflix, partie 1 de la saison 3 disponible, partie 2, je t'allais vérifier, 27 juillet. Pour la deuxième partie, donc vous pouvez le binge-watcher si vous voulez, ou écouter un épisode de temps en temps. Je pense qu'un épisode par semaine, vous allez arriver au 27 juillet et vous allez pouvoir continuer la deuxième partie. sans même prendre de pause. Donc voilà, c'était ma capsule express de cette semaine de Witcher saison 3. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que je vous donne le goût d'aller écouter la série. J'espère que je vous donne le goût de continuer d'écouter la série si vous l'avez commencé. Sinon, ben tant pis, ça sera une chose de moins dans votre liste si vous n'étiez pas sûr encore et que je ne vous ai pas du tout convaincu. Ben supprimez-la de votre liste puis ça vous fait une affaire de moins à écouter. Là-dessus, je m'arrête. Prochaine semaine, 14 juillet, prochaine capsule express. Je peux pas vous dire encore de quoi qu'on va parler ou qui va la faire. On a quelques idées, mais on n'est pas encore décidé à 100%. Vous aurez la surprise à ce moment-là, le 14 juillet. Prenez note que la troisième capsule, qui est prévue pour le 21 juillet, aura peut-être un petit délai, simplement parce que moi ainsi que Bedu seront en vacances durant cette période-là. Donc, si on est capable de vous sortir l'épisode le 21 juillet, on le fera. Sinon, ben, ce sera peut-être avec quelques jours de retard. Et 1er août, prochain épisode complet, épisode mensuel, dernier épisode mensuel de la saison 2. Et ensuite, saison 3 commence le 1er septembre avec un tournoi du meilleur jouet du monde. On a déjà fait une liste, on va avoir vraiment beaucoup de plaisir à tourner cet épisode-là et j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à l'écouter également. D'ici ce temps-là, ben, portez-vous bien, passez une excellente semaine. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, profitez-en. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre capsule express des critiques de Yugi. Ciao tout le monde, à la prochaine!